Chapitre 7. Marthe tient à ses fantômes. Le lendemain soir, après une journée particulièrement heureuse pour la nouvelle châtelaine de la Roseraie, qui avait elle-même conduit en my coach ses invités dans la forêt de Sénart et leur avait fait servir un déjeuner champêtre, Fanny était en train de raconter à son mari, qui n'avait pu quitter l'usine, les amusantes péripéties de cette joyeuse promenade, quand la femme de chambre se présenta effarée. « Madame, dit-elle, c'est Madame Saint-Firmin, mais dans quel état ? Où est-elle ? Ah, madame, elle est en bas, plus morte que vive. Elle ne veut pas être vue de personne, je l'ai fait entrer dans le cabinet de monsieur. » Ils descendirent et trouvèrent la malheureuse femme affalée au fond d'un fauteuil. Elle était là comme un petit tas noir et boueux, au-dessus duquel on apercevait sa face blême aux grands yeux qui semblaient toujours voir des choses extraordinaires. Elle grelottait. On eût pu dire si c'était de peur ou de froid. Elle bougea à peine quand Fanny fut près d'elle. Madame de la Bossière lui prit les mains, elles étaient brûlantes. « Mais vous avez la fièvre, ma pauvre enfant. Qu'est-il encore arrivé? D'où venez-vous? Comment êtes-vous dans cet état ?» Elle était littéralement couverte de boue et sa robe était déchirée. Elle avait la tête nue, les cheveux épars. Elle avait l'air d'une folle qui serait parvenue à s'enfuir de son cabanon et qui aurait longtemps couru à travers champs. Et il y avait un peu de cela dans son cas. Elle fit comprendre par petites phrases hachées qu'elle s'était sauvée de chez elle par-dessus le mur du jardin et qu'elle avait couru jusqu'à la roseraie. Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Pourquoi ? Et elle parut retrouver du coup toutes ses forces. Elle se souleva brusquement, comme si elle avait reçu une décharge électrique. « Mais parce que je l'ai revue !»« Mais vous avez revu qui ?» demanda Fanny, qui devinait bien cependant, après la séance de la veille, de qui il s'agissait. « Mais j'ai revu André. Je vous dis que je l'ai revu !» répéta Marthe avec une énergie incroyable. « Oh, cette fois, ne me dites pas que ce n'était pas lui. Je l'ai vu comme je vous vois. » Fanny et Jacques se regardèrent. « Ah, ne me prenez pas pour une folle. C'est abominable. Si vous aviez été là, vous l'auriez vu comme moi. » Elle se laissa tomber, prise d'une grande faiblesse. « Il faut prévenir Moutier, » dit Fanny, très ennuyée de ce nouvel incident. « Oh non, non, pas le docteur !» protesta Madame Saint-Firmin. « plus tard, le docteur !»« J'ai des choses à vous dire, j'ai des choses à vous dire. Si je ne le dis pas à vous, son frère, sa belle-sœur, à qui voulez-vous que je le dise ? Seulement, je voudrais de l'eau bien froide. » Avec un morceau de sucre et un peu de fleur d'oranger, vous permettez ? Et elle claquait des dents, elle faisait pitié. Jacques avait sonné, donné des ordres sur le seuil à la femme de chambre, et Fanny s'efforçait de calmer l'extraordinaire visiteuse. Ma pauvre enfant, vous savez ce que vous a dit le docteur hier ? Vous êtes dans un état d'exaltation qui vous fait voir des choses impossibles. Non, non, rien n'est impossible. Maintenant, j'en suis sûr, absolument sûr, absolument sûr. André est mort, il me l'a dit. Attendez, attendez, je me méfiais après tout ce que j'avais dit hier au docteur, que c'était moi qui inconsciemment faisait marcher la table, que c'était moi qui me créais l'image du fantôme d'André, etc. Oh, je me méfiais de moi-même, de mes yeux, de mon intelligence, de mon pauvre cerveau. de ma pauvre tête qui est en effet bien malade. » Elle se passa la main sur le front et sembla un instant rassembler ses souvenirs. « D'abord, je vous avouerai que depuis le départ d'André, j'avais cru le voir plusieurs fois. Je n'en avais parlé à personne, car je ne me raisonnais et n'étais en vie que c'était là une obsession de ma pensée que je ne pouvais détourner de la sienne. Il faut bien aussi que vous sachiez que de son vivant, entre André et moi, il y avait une communauté d'idées absolues. Nous étions amis souverainement, liés d'âme, car nous nous aimions comme de futurs époux. Comment, comme de futurs époux ? S'exclama Fanny. Oui, oui, comme de futurs époux. Oh, je vous dis tout, continua Marthe d'une voix passionnée, parce que je sais que si je ne me décharge pas un peu de ce secret qui m'étouffe, il m'arrivera encore des malheurs. Mon mari est vieux, André et moi, nous étions jeunes. Nous nous étions promis d'être l'un à l'autre après la mort de mon mari. Et sans doute cela était un crime impardonnable, enterrer déjà ce vivant. Et voilà que c'est l'autre qui est mort. Mon André, mon André. Oh, il est bien mort. Il me l'a tué. Elle regarda avec égarement autour d'elle, et puis... Toutes les portes sont bien fermées. Nous sommes seuls. Écoutez, j'aurais eu certainement des nouvelles d'André s'il n'était pas mort. Et comme je n'en avais pas, je ne pensais qu'à sa mort et à aller le rejoindre. Mais pour cela, il fallait être sûr qu'il fût bien mort. Et de cela, j'aurais voulu avoir la certitude, l'absolue certitude. Et un soir, que je pensais à lui avec une ardeur maladive, suppliant son nom pour ne m'appeler près d'elle, si elle avait vraiment quitté son corps, et où j'étais hanté par l'idée du suicide, il y a environ 2 ans de cela, je me trouvais, tenez, dans le petit kiosque qui domine le bord de l'étau. Alors j'ai vu, ou j'ai cru voir, une ombre éclairée par la lune et qui ressemblait étrangement à André. Cette ombre légère, inconsistante, flottait entre les saules de la rive, sur les eaux, et je m'évanouis. Le lendemain, je me réveillais dans mon lit. J'étais soigné par une sœur qui était allée chercher mon mari. Cette sœur venait du couvent où j'avais été élevé et s'était toujours montrée si bonne avec moi que je lui confiais l'histoire de l'apparition. Elle me raisonna, me confessa, et comme j'étais naturellement pieuse, je n'eus pas de peine à me faire renoncer à l'idée du suicide. Seulement, je retournais souvent, le soir, dans le kiosque. Loin de me faire peur, l'image d'André flottant sur les eaux m'attirait. J'aurais voulu la revoir, je le désirais de toute mon âme. Elle ne revint pas, mais j'en conclus que j'avais bien réellement été victime d'une hallucination. Or, écoutez bien, je ne suis pas folle. L'avant-dernière nuit, l'ombre est venue et elle m'a parlé. Et ma petite, le docteur nous a mis au courant de cette apparition-là. On a des hallucinations de l'oreille comme des yeux. Et vous savez ce qu'elle m'a dit, l'ombre, avant-hier ? Oui, elle vous a dit « J'ai été assassiné », accorda Fanny pitoyable. Le docteur nous a raconté tout cela. Oui, mais André ne m'avait pas dit où il avait été assassiné. Eh bien, il est revenu aujourd'hui pour me le dire. Voilà. Voilà pourquoi je viens vous trouver, ajouta Marthe d'une voix rauque. Reprenez un peu de fleurs d'oranger, mon enfant, dit Fanny, qui cette fois crut Marthe réellement folle. Et puis je vous en supplie, ne vous énervez pas comme ça. Voyons, le docteur nous avait pourtant dit que vous lui aviez promis d'être raisonnable. Malgré cela, je suis sûr que depuis hier soir, vous n'avez fait que penser à cette sotte apparition. Oh, madame, ne me parlez pas ainsi. Est-ce vrai ce que je dis? Est-ce que vous avez dormi la nuit dernière? Non, madame, je ne dors plus. Et vous rêvez tout éveillé, voilà l'histoire. N'est-ce pas, ma darling? C'est mon idée, répondit la voix grave de Jacques. Et il se leva pour aller déposer sur la table le verre de Marthe. Mais cette fois, madame, cette fois il ne flottait plus sur les eaux. Il marchait comme vous et moi, et était venu tout près de moi. J'aurais presque pu le toucher. Il a tendu les bras vers moi. Oh, c'était affreux. Il avait à la tempe une plaie saignante. Oui, une plaie qui saignait encore. Pensez donc depuis 5 ans. Où allez-vous donc, darling? Demanda Fanny à Jacques. Un verre d'eau, je vais prendre un verre d'eau. Vous n'avez pas soif, vous? Mais vous paraissez ému, darling, c'est votre frère. Vrai, c'est vrai, vous l'aimiez tant. Et elle se retourna du côté de Marthe. Alors vous disiez que sa blessure saignait encore depuis 5 ans. Vous voyez bien que vous rêvez toujours, ma chère petite. Mais Marthe ne se démonta pas. Je vais vous dire tout en détail. Mon mari se couche de bonne heure. Après le dîner qui ne dure guère, il essaie de me raconter généralement des histoires de l'étude. Et ce soir-là, je ne lui ai pas répondu. Il m'a souhaité bonne nuit et a regagné sa chambre. Je réfléchissais. Je me disais, tu as encore eu une hallucination, ainsi qu'il y a 2 ans. Maintenant que tu es raisonnable et tranquille et lucide, et que le docteur t'a averti, retourne au kiosque et tu te rendras bien compte qu'il n'y a pas d'ombre du tout et que tu as rêvé. Là-dessus, j'ai jeté une écharpe sur mes épaules et j'ai traversé le jardin. J'entendais la bonne qui remuait sa vaisselle dans la cuisine, et dans le jardin, j'ai aperçu la silhouette de mon mari qui passait et repassait devant la fenêtre de sa chambre. Tout cela était bien naturel, et moi-même, je me sentais très naturel. Tout de même, quand j'ai eu atteint l'escalier du kiosque, je n'ai pu m'empêcher de frissonner. Je me disais, s'il est encore là ce soir, c'est que c'est bien lui. Madame, tout d'abord, je n'ai rien vu. J'ai fait le tour de la table de bois. Je suis allé m'appuyer à la rampe et j'ai regardé le fleuve, l'endroit où je l'avais vu marcher sur les eaux, entre les branches des saules, au-dessus des nénuphars, et puis la rive. Il y avait un silence énorme. J'ai entendu sonner l'heure à une chapelle. Je suis resté bien là une demi-heure, et tout bas j'appelais « André, André !» pour voir s'il allait venir. Mais j'étais bien persuadé qu'il ne viendrait pas, parce que je m'efforçais de penser à ce que m'avait dit le docteur. Ne voyant rien sur la terre, je levais les yeux au ciel. Il y avait de gros nuages noirs qui glissaient sur la lune. J'allais partir quand, m'étant redressé, un bruit de chaîne se fit entendre et mon regard retourna à la rive. C'est alors, madame, que je le vis. Oh, il était là! Il se détacha des saules, glissa sur l'herbe, vint presque au pied du mur. Il levait les bras et me disait « Marthe, Marthe, il m'a assassiné !» Oh, le pauvre, comme il était pâle, et il me montrait sa plaie saignante à la tempe. Il ajouta encore, avant de disparaître en traînant sa chaîne, « Il m'a assassiné en automobile !» À ce moment, il y eut derrière Fanny le fracas déplaisant de la vaisselle qui se brise. Madame de la Beaussière se retourna vivement. C'était son mari qui venait de laisser tomber un verre et une assiette. « Faites donc attention, darling. Vous dépareillez notre beau service de bohème. » Chapitre 8. Ah, si Lazare avait voulu nous dire. Monsieur Saint-Firmin, qui était à la recherche de sa femme depuis une heure et qui avait parcouru toute la campagne environnante dans son vieux tilbury attelé d'un cheval poussif, eut enfin l'idée de venir sonner à la grille de la roseraie. On ne put lui cacher que la fugitive s'y trouvait, et il la ramena après l'avoir consciencieusement traitée de toquée et avoir présenté ses excuses à madame de la Beaussière. Celle-ci, pour décider Marthe à suivre son mari, lui avait promis qu'elle irait la voir le lendemain. La jeune femme pouvait compter sur son aide morale dans l'étrange crise qu'elle traversait. « Vous devriez faire voyager cet enfant !» avait conseillé Fanny au notaire. « Dans son état, le séjour mélancolique de la ville du bord de l'eau ne lui vaut rien. » « Eh bien, et les affaires ?» avait répliqué le Saint-Firmin. « Elle est tout de même assez grande pour voyager sans vous. »« Et même trop !» Et le vieux diable avait claqué du fouet son bidet en faisant entendre son vilain rire. Quant à Jacques, il était couché depuis près d'une heure. Sans doute n'avait-il pas eu la patience d'entendre plus longtemps le récit des hallucinations de cette pauvre Marthe. Il n'avait même point demandé à sa femme ce qu'elle comptait faire de sa visite nocturne, ni si elle allait lui offrir l'hospitalité. Après avoir ramassé lui-même les morceaux du service qu'il avait si maladroitement brisé, il s'était esquivé à l'anglaise. La chambre de Jacques n'était séparée de celle de Fanny que par le boudoir privé. Fanny, avant de sonner sa femme de chambre, frappa à la porte de son mari. Elle sentait un besoin impérieux de lui parler. Elle voulait lui communiquer surtout les dernières confidences de Marthe qu'elle estimait d'importance. Mais elle avait beau frapper, on ne lui répondait pas. Elle trouva bizarre que Jacques se fût si vite endormi et qu'il n'eût pas eu la curiosité de l'attendre après la singulière démarche et les contes fantastiques de la petite Saint-Firmin. Elle tourna tout doucement la clenche et ouvrit la porte. « Vous dormez ?» demanda-t-elle à voix basse. Seul le bruit d'une respiration régulière lui répondit au fond de l'obscurité. Alors, après avoir réfléchi un instant, elle referma la porte aussi doucement qu'elle l'avait ouverte et pénétra dans son cabinet de toilette, sonna Catherine, se laissa déshabiller sans dire un mot, procéda à sa toilette de nuit et essaya de dormir, mais elle y parvint assez difficilement. Jacques se leva de grand matin. Quand le temps était beau, il aimait à se rendre à pied à l'usine qui se trouvait à 2 kilomètres du château. Aussi renvoya-t-il le groom avec la charrette anglaise, car la journée s'annonçait magnifique. Les chignons roux des petites futaies se démêlaient déjà aux raideurs du soleil. Toute la campagne se réveillait fort guillerette, faisant sa toilette matinale, se débarrassant hâtivement des derniers voiles de la nuit. Aussi loin que le regard de Jacques s'étendait en bas vers la Seine et sur sa gauche jusqu'à la lisière de la forêt de Sénart, toutes ces terres appartenaient au château, et comme disait sa femme, c'était là une royale propriété. « Vous admirez vos terres !» dit tout à coup derrière lui une voix qui le fit sursauter. C'était le docteur Moutier. Jacques lui tendit la main et sourit. Ben, « si à mon retour André veut me les vendre, je ne demanderai pas mieux que de les acheter. Mais vous êtes bien matinal, mon cher hôte. Oh, moi, la campagne, vous savez, je suis pour le footing, j'ai besoin de maigrir. » « Vous avez raison, docteur, acquiesça Jacques. Vous êtes trop gros pour un médecin spiritualiste. » Mon ami, je l'avoue, j'attache trop de prix à certaines satisfactions charnelles. Tenez encore tout à l'heure, votre cuisinière, sur mon indication, du reste, m'a fait monter dans ma chambre pour mon premier déjeuner 2 œufs sur le plat à la crème. Oh, c'était un rêve. Jacques s'arrêta une seconde à contempler cette excellente face réjouie, aux lèvres sensuelles, puis à l'enquérir la sincérité du regard sous les besicles d'or. « Entre nous, docteur, lui dit-il, avouez donc qu'un bon vivant comme vous ne doit pas croire un mot de tout ce qu'il nous a raconté l'autre soir. » Mais le papa Moutier, comme on l'appelait dans les salles de rédaction des revues scientifiques, où il s'était fait une réputation assez originale, en étendant hardiment le domaine du magnétisme animal de Charcot, et en osant associer le spiritualisme le plus transcendantal et même le plus orthodoxe au spiritisme expérimental de Crookes, le papa Moutier sursauta. « Ah, ne dites pas ça! Ne dites pas ça! Vous pourriez me causer le plus grand tort. Certains me croient malade, et vous voyez si j'en ai l'air. Il manquerait plus qu'on me prie pour un farceur. Et surtout, à la veille, de faire paraître un périodique qui va révolutionner tous les cercles s'occupant plus ou moins de la science magnétique et de toutes les formes de la suggestion. Ah, ben vous ne m'aviez pas dit ça. C'est encore un secret scientifique et mondain, si j'ose dire, et qui ne m'appartient pas à moi seul. Mais un ami comme vous, je peux tout avouer, d'autant plus que je vous dois bien ça, puisque vous m'offrez une hospitalité qui me permet de travailler en paix à notre premier fascicule. Et cela va s'appeler la médecine astrale. Et savez-vous avec qui je travaille? Avec le grand jaloux. Oh, le grand jaloux de l'Académie des sciences et des conférences de l'École des sciences politiques et sociales, parfaitement. Mais alors, mon cher, c'est la fortune. « Oh, je l'espère !» Le grand, le beau jaloux, les conférences de jaloux. Depuis Caro et Caroline à la Sorbonne, on n'avait pas encore assisté à un pareil succès. Depuis 2 ans qu'à l'École des sciences politiques et sociales, le beau jaloux, un peu trop grand pour être tout à fait beau, mais si chic, si distingué, ma chère, avait inauguré ses conférences philosophiques et expérimentales sur la médecine de l'âme. C'était tous les mardis dans la salle austère. Un assaut d'élégance, une bousculade de petites femmes affolées, de larbins se battant pour conserver ou garder la place de leur maîtresse. On appelait ces élèves enthousiastes les jalouses. Quelle extase dès que le maître apparaissait! Et comme elles étaient prêtes pour toutes les expériences de la médecine de l'âme. Ce jaloux n'est pas un imbécile, fit Jacques en souriant. Mon cher, ne souriez pas, c'est agaçant. Jaloux est un précurseur. Il voit si loin que l'on ose le suivre dans les milieux officiels, mais les autres nous sont acquis. Vous avez au moins leur curiosité. Quand on a promis, comme jaloux, d'arracher son secret à la mort, c'est bien le moins qu'on regarde agir un homme de la valeur de jaloux. Vous le connaissez, jaloux? Pour l'avoir vu un jour de séance solennelle à l'académie. Eh bien, je vous le présenterai dans quelques jours. Oui, il doit venir jusqu'ici lire avec moi les dernières épreuves de notre premier numéro, une chose qui va faire pousser les cris. Nous allons établir pour la première fois la théorie probable de la suggestion des morts, d'où notre titre de médecine astrale. Oh, vous verrez, nous finirons bien par vous convertir à nos théories. J'en doute, du reste j'aime assez théorie probable. Eh, mon cher, nous sommes des hommes de science et par conséquent prudents. Tous les observateurs sérieux qui ont voulu savoir ce qu'il y a de vrai dans le spiritisme se sont soumis à toutes les conditions indispensables pour la réussite de l'expérience. Et ce n'était pas des sots. C'est lentement, méthodiquement, qu'ils se sont familiarisés avec toutes les phases du phénomène. M. Barcas s'est tenu dans l'expectative pendant 10 ans, M. Crookes pendant 6 ans, M. Hodgson pendant 8 ans. C'est après l'étude attentive de tous les faits, et aussi après s'être familiarisé avec toutes les étrangetés apparentes des manifestations, qu'ils recherchèrent les causes capables de les produire. Et quand ils eurent réuni une grande quantité d'observations prises dans différents milieux, ils en firent la synthèse et conclurent enfin à l'existence et à l'intervention des esprits. Vous parlez avec une conviction, mais dites donc, fit Jacques, comme il se rappelait tout à coup une chose assez intéressante. Dites donc, vous savez que Madame Saint-Firmin a revu son fantôme? Encore? Oui, elle est accourue hier soir pour nous faire part de cette importante nouvelle. Docteur, je ne vous cache pas que cette petite folle commence à m'ennuyer. Bon, qu'est-ce que cela vous fait? Comment, qu'est-ce que cela me fait? Mais elle finira par nous faire croire qu'André a été assassiné, alors que je n'ai pas renoncé à voir revenir mon frère, moi. Oui, c'est un sentiment tout naturel, mais aussi, je le crains bien, une vraie espérance. Tout de même, si cette jeune femme, avec le secours de ses apparitions, allait vous mettre sur les traces d'un crime et vous faire arrêter l'assassin, hein? Vous y croiriez, après cela, au fantôme? Jacques ne répondit pas. Il fit quelques pas, haussa les épaules et laissa tomber ses mots. Vous ne savez pas ce qu'elle nous a dit hier? Elle nous dit que mon frère avait été tué en automobile. Ah ah! C'est un renseignement précis, s'exclama le docteur, en rabaissant brusquement ses lunettes sur son nez et en regardant Jacques avec son meilleur sourire. Mon Dieu, je trouve que cette petite raconte tout simplement tout ce qui lui passe par la tête. Oh, c'est peut-être exact, et je le crois comme vous. Après l'avoir examiné, étudié, enfin, on ne saurait rien affirmer d'une façon absolue. Quand Jaloux viendra, je lui soumettrai le cas. Vous n'allez cependant pas me dire que Jaloux croit sérieusement à l'intervention des morts. À l'intervention possible des morts. Il se contente de cela pour l'instant. Bon, mon cher, laissez-moi tranquille. Quand on est mort, c'est pour longtemps. Et nous ne saurons jamais ce qui se passe dans ce pays-là. Personne n'en est revenu. Oh, vous oubliez Lazare, qui en est revenu vivant. Oui, Lazare, eh bien, Lazare. Pourquoi nous a-t-il pas dit ce qui se passe par là-bas? Ah, si Lazare avait voulu nous dire. Mais il n'a rien dit parce qu'il ne savait rien. Parce qu'au fond de son ossuaire, il n'était pas mort. C'est bien simple. Fit Jacques à la stupéfaction du docteur. Et il continua en se gaussant. Ce n'est pas le premier léthargique que l'on voit surgir du cercueil. Païen, 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 et pauvre ignorant que vous êtes, s'écria Moutier hors de lui, levant des poings hostiles au bout de ses courts petits bras vengeurs. Mais sachez donc, monsieur, que scientifiquement, on peut mourir et renaître. Oui, monsieur, oui, scientifiquement. Un homme est mort, eh bien, si vous vous y prenez à temps, vous pouvez le faire revivre. Oui, monsieur, c'est comme je vous le dis, monsieur. Bon, le père Moutier était réellement furieux. On lui dit qu'il allait battre son hôte. Il avait des moments comme cela, où dès que l'on touchait à ses théories, il ne connaissait plus d'amis. Alors Jacques lui rit au nez. Le père Moutier lui tourna le dos carrément et s'enfuit à travers la campagne, sans doute pour éviter de faire un malheur. Chapitre 9. Les théories du docteur Carrel sont mises à contribution. Jacques entra dans l'usine et s'astreignit à ne plus penser qu'aux manchons incandescence. Le spectacle de l'activité qui régnait dans le bâtiment et dans les cours, le bruit des grands chars automobiles qui apportaient la matière première ou remportaient les caisses prêtes pour la livraison, le tumulte rythmé de la machinerie, lui plurent ce matin-là plus encore que de coutume. Il passa quelques heures dans un nouvel atelier qu'il venait de faire installer, de manière que le mandrinage et le calibrage des manchons se fissent mécaniquement avec une précision, une netteté encore inconnue. Jacques était sympathique à tout son personnel, dont il obtenait le maximum de travail par un système de participation aux bénéfices qui avait toujours effrayé André, mais que le cadet avait su faire pratiquer en le rendant, grâce à l'ingénieuse combinaison, à peu près illusoire. De telle sorte, expliquait Jacques, qu'ouvriers et ouvrières travaillaient comme des nègres, soutenus par l'espérance, car c'était une nouvelle force qu'il avait prise à son service. Héron n'avait jamais encore connu une pareille ère de prospérité. Des ateliers, Jacques s'en fut au bureau, constata que tout marchait à souhait, et vers 11 heures reprit le chemin du château. « Cet animal de Moutier, tout de même, exprima-t-il tout haut en pénétrant dans le parc. » Ainsi, tout le travail du matin n'avait pas chassé de son esprit toutes les histoires abracadabrantes de cet irritable petit bonhomme à lunettes, Mais ce fut de lui qu'il s'informa aussitôt qu'il eut gravi l'escalier de marbre du perron. Le docteur Moutier est descendu aux cuisines, lui fut-il répondu par un valet de pied. Jacques ne s'en étonna point, car le mage de la médecine astrale était incroyablement gourmand et il aimait à faire travailler les cordons bleus suivant ses recettes. Presque aussitôt du reste, le bonhomme apparut. « Ah, mon cher, s'écria-t-il, vous m'en direz des nouvelles. Apprenez qu'en ce moment, au fond d'une casserole, une jeune poulette est en train de s'attendrir au contact de 150 grammes de crème, de 120 grammes de beurre et de parchemin râpé. » « Fi l'horreur !» interrompit la voix harmonieuse de Madame de la Bossière. Et Fanny s'avança dans une robe légère en duvetin rayé noir et blanc, blouse ceinturée d'un large galon bordé d'or, qui lui donnait 20 ans. « Sabrelotte, que vous êtes jolie !» s'exclama le père Moutier. « Alors, vous ne voulez pas de ma cuisine ?»« Vous mangerez tout, goinfre !» répondit Fanny, en donnant ses belles mains à baiser à son mari. « Voilà donc, petite chérie. Il me semble, mon seigneur et maître, que je ne vous ai pas vu depuis des semaines. Pourquoi êtes-vous parti sans m'avoir embrassé ce matin ?»« Parce que je n'ai pas voulu vous réveiller, tout simplement. Je suis parti de si bonne heure. Et vous, docteur, qu'est-ce que vous avez fait ? Pourquoi n'êtes-vous pas venu avec nous ce matin ? Vous nous auriez aidé à prendre notre revanche. Nous avons fait une partie de crosse avec ces dames. Vous maniez si bien la crosse. Et vous êtes léger comme une petite balle, indeed. Ne vous moquez pas de moi, belle madame. Ce matin, je n'ai pas perdu mon temps. Je me suis querellé avec votre mari à propos de fantômes. Et je suis allé voir notre pauvre folle. Ah, vous êtes allé voir « Madame Saint-Germain ?» s'étonnèrent en même temps Fanny et Jacques. « Mais parfaitement, je voulais finir de la confesser, et quelques mots que m'avait dit votre mari m'avaient intrigué. Bref, en vous quittant, mon cher ami, je me suis rendu à la villa du bord de l'eau. On n'a fait aucune difficulté pour me recevoir. La jeune femme était au lit, grelottante de fièvre, et elle avait besoin d'une bonne ordonnance. » Le Saint-Firmin a été enchanté d'avoir sa consultation à l'œil. Moyennant quoi, j'ai obtenu qu'il s'éloignât et qu'il me laissât seul avec la malade. Elle m'a tout conté, l'histoire de la nuit, le retour du revenant, la fuite au château. Cette fois, je l'ai sondée à fond, cette petite âme bizarre, et je lui ai fait avouer que ce que je ne faisais que soupçonner, c'est-à-dire qu'elle croyait à l'assassinat d'André par son mari. Rien que ça. Et elle m'a prié du reste de vous le répéter, puisque vous ne l'abandonniez pas, que vous veniez la voir le plus souvent possible, et que vous décidiez le Saint-Firmin à la laisser partir. Et elle m'a déclaré, ce qui, mes chers amis, vient tout à fait corroborer mes idées sur l'état d'esprit de la pauvre enfant, elle m'a déclaré que cela ne l'étonnait pas du tout que le fantôme d'André lui eût raconté qu'il avait été assassiné en automobile, attendu que le lendemain du départ d'André, M. Saint-Firmin avait loué à Juvisy une automobile et qu'il avait été absent toute la journée et qu'il n'avait jamais voulu dire où il était allé ce jour-là. Et elle reste persuadée que Saint-Firmin est allé rejoindre votre frère, la proprement toxie, et est revenu gratter son papier timbré. À quoi j'ai répondu à la pauvre enfant, car elle fait vraiment pitié. Vous voyez bien, encore une fois, que toutes les histoires que vous me racontez ne tiennent pas debout. Vous vous forgez tout cela dans votre petite tête, et vous y croyez dur comme fer. Quoi d'étonnant à ce que la nuit vos hallucinations viennent vous raconter les folies que votre petite tête a perpétrées pendant tout le jour. D'où l'histoire du fantôme et de l'automobile. Si Monsieur Saint-Firmin, le lendemain du départ d'André, n'avait pas pris exceptionnellement une auto, et si vous ne l'aviez pas su, le fantôme ne vous aurait jamais parlé d'automobile, c'est clair. Et qu'est-ce qu'elle vous a répondu ? Demanda Fanny. Elle m'a répondu qu'elle voudrait être morte. Oh, pauvre petite, j'irai la voir cet après-midi. Ce qu'il y a d'amusant dans cette lugubre histoire, fit remarquer Jacques, c'est que le docteur, qui passe son temps à nous faire croire aux fantômes, quand nous sommes bien portants, n'est tranquille que lorsqu'il en a chassé de nos cervelles la sotte imagination, quand nous sommes malades. Mon cher, vous ne voudriez tout de même point que je confonde les fantômes de Madame Saint-Firmin avec ceux de William Crookes. Oh, pour moi, je vous avouerai, commença Jacques, mais le docteur le pria de se taire s'il tenait à conserver son amitié. Oh, allons, ne nous fâchons plus, conseilla Jacques. Car nous étions fâchés, ma chère Annie. Ce bon, cet excellent docteur voulait tout simplement m'étrangler. Madame, ce qui me met hors de moi, c'est que votre mari, par ses sourires, semble toujours mettre en doute ma bonne foi. Eh, mon cher, reprit Jacques, je ne doute pas de votre bonne foi. Mais votre bonne foi n'est pas nécessairement la science. Et quand vous venez prétendre, comme tantôt, que vous pouvez prendre un homme scientifiquement mort et le faire sciemment revivre, j'ai bien le droit de sourire tout de même. Non, monsieur, vous n'en avez pas le droit. Et le père Moutier, retourné d'un coup à la plus noble indignation, avait relevé ses vésicles sur son front, laissant voir ses gros yeux qui lui sortaient de la tête, tandis que d'un geste fébrile, il fouillait dans la poche intérieure de sa redingote. Il en sortit bientôt un considérable portefeuille en maroquin noir, l'ouvrit, y prit une coupure de journal jauni, qu'il agita sous le nez de Jacques stupéfait et de Fanny amusé. « Non, monsieur, vous n'en avez pas le droit. Et pour vous confondre, j'ai retrouvé dans les dossiers que j'ai apportés ici pour travailler au premier fascicule de la médecine astrale, j'ai retrouvé cette page du matin qui, je l'espère, fera cesser vos doutes et votre sourire, monsieur le sceptique. Après cette lecture, j'espère que vous ne me traiterez plus de charlatan. » Ah, mais je ne vous ai jamais traité de charlatan. Oh, vous l'avez pensé. Silentium. Cela est daté du 27 septembre 1901 et intitulé en article leading « Un déjeuner de savants ». Et en sous-titre, nous voyons ceci. Ils y discutent sur la vivisection des condamnés à mort et laissent entrevoir l'espoir de ressusciter les hommes. « Bigre !» fit Jacques. « Ah, mon chéri, soyez sérieux !» pria gentiment Fanny. « À ce déjeuner, continua le directeur de la médecine astrale, il y avait les premières personnalités de la science et ce génie français qui a été obligé de s'expatrier en Amérique parce qu'en France, on le trouvait trop avancé, trop audacieux, bref, parce qu'on ne le comprenait pas. J'ai nommé le docteur Carrel. Oh, connu, dit Jacques. Oh, voici ce que disait le docteur Carrel à ce déjeuner. Je lis, monsieur, je lis le matin. Je n'hésiterai point, reprit à son tour le docteur Carrel, à demander à ce qu'on me livrât de son plein gré un condamné à mort, pour dire qu'il me fut possible de faire sur lui des expériences qui ne seraient point nécessairement mortelles, mais qui seraient bien utiles à la chirurgie actuelle. Quelles seraient ces expériences? Elles seraient avant tout prudentes, mais ce qu'il faut chercher, ce qu'il faut étudier sans relâche, ce sont les méthodes de conservation des organes et des tissus et le secret de les faire revivre. Je n'invente rien, lisez, les faire revivre. Et entre autres choses, voilà ce qu'à ce déjeuner à propos de la mort et de la résurrection des tissus, voilà ce que dit le docteur Tuffier. Ce serait là d'audacieuses opérations chirurgicales. Vous savez que les annales de chirurgie citent déjà 4 ou 5 massages du cœur qui comptent parmi les tentatives les plus hardies. Dans un cas de traumatisme du cœur, si une balle est venue se placer dans un ventricule par exemple, il arrive que l'enveloppe cardiaque, le péricarde, gonfle, comprime le cœur qui se tait et cesse de battre. On peut alors ouvrir un volet dans la poitrine, inciser le péricarde et masser le cœur. La circulation, qui avait cessé, reprend peu à peu. Le sang figé dans les veines afflue au cœur et reprend sa route vers la périphérie. L'homme qui était mort ressuscite, il vit, il peut guérir. Voilà comment a parlé le docteur Truffier. Et j'estime, n'est-ce pas, qu'il n'y a plus rien à ajouter, conclut le pape Pamoutier en rangeant avec soin la coupure dans son immense portefeuille. Mais il ajouta cependant, et voilà comment, mon cher, scientifiquement, on peut aller chez les morts et en revenir. Docteur, je vous fais amende honorable, déclara Jacques en lui tendant la main. Et maintenant, allons manger la poulette au parmesan, mais en bon vivant, qui laisseront un instant les morts tranquilles. N'est-ce pas, docteur? Chapitre 10. Jacques est un peu énervé. Après le déjeuner, Fanny retint après d'elle son mari. « Vous n'êtes pas vraiment curieux, darling, » lui dit-elle avec sa plus jolie moue. « Pourquoi m'avez-vous quitté aussi brusquement hier soir et laissé avec cette triste petite femme sans plus vous occuper de votre Fanny? Pourquoi ne me demandez-vous même pas ce qu'elle a dit quand vous avez été parti ?» « Parce que les querelles conjugales de monsieur et madame Saint-Firmin ne m'intéressent en aucune façon, entendez-vous, chère belle Fanny ?»« Comme vous me dites cela, petite chérie, vous paraissez exaspérée. »« Je ne suis pas exaspérée, mais vous pouvez penser que je suis excédée. »« C'est la vérité, vous pouvez comprendre qu'il m'est nullement agréable » de voir mêler André d'une façon ridicule à ces histoires de folie. Mais là, mon cher, il y est mêlé plus que vous ne croyez encore, répondit Fanny en pinçant les lèvres et en montrant par son attitude subitement réservée qu'elle avait été froissée du ton de Jacques. Expliquez-vous donc. J'ai peur de vous énerver, darling. « Profitez de ce que je le suis, au contraire, et finissons-en. Qu'est-ce que cette petite toquée a imaginé encore ?»« Oh, ce que je vais vous apprendre ne s'est pas passé dans le domaine de l'imagination. C'est tout simplement l'histoire vraie du départ d'André. Voulez-vous la connaître ?»« Je vous écoute. » »« C'est très simple. » Voilà ce qui s'est passé. Le Saint-Firmin avait surpris quelques pages d'une correspondance échangée entre sa femme et votre frère. Dans ces lettres, il était question d'un amour purement moral et platonique, mais comme on y parlait aussi d'un bonheur parfait qui ne manquerait point de suivre la mort du vieux Grigou, Celui-ci n'a point voulu croire que sa femme fût restée honnête avec un pareil dessein dans le cœur. Persuadé qu'il était le plus ridicule des maris, il en est devenu soudain le plus tragique. Et un soir, où il est rentré dîner à la villa du bord de l'eau plus tôt que de coutume, et où il trouva André retenant tendrement dans les siennes les mains de Marthe, il jura par les plus terribles serments qu'il tuerait sa femme comme une bête malsaine si dans la nuit même André ne disparaissait pas pour toujours du pays. Le Saint-Firmin avait les lettres, il fallait céder. André, pour sauver la vie de Marthe, promit immédiatement tout ce qu'il voulut. C'est alors que le notaire reparut aussitôt derrière le mari offensé et que le Saint-Firmin, après avoir entraîné André dans son cabinet, rédigea avec lui toutes les paperasses nécessaires à la gestion de ses biens et de l'usine pendant son absence. Voilà l'histoire vraie. Le reste n'est qu'invention, je le veux bien, du cerveau en travail de la pauvre Marthe, mais il paraît du reste qu'elle souffre le martyre. Il ne se passe point de journée où son mari ne lui ricane sous le nez cette phrase qui l'épouvante. Il ne reviendra plus, plus, plus. Il ne reviendra plus parce qu'il l'a assassiné, pense-t-elle. Mais vous, petite chérie, vous ne le pensez pas, n'est-ce pas? Vous pensez qu'il est toujours vivant, votre cher frère. Oui, Fanny, je le pense, ou du moins, je l'espère. Et il se leva, le front sombre. Comment, vous me quittez sans m'embrasser? Il l'embrassa. Alors elle le retint de ses deux petites mains jetées à ses fortes épaules, et le regardant bien dans les yeux, « Jacques, pouvez-vous dire à votre chère petite femme pourquoi vous avez cassé ce verre hier quand cette folle est venue vous raconter qu'André avait été assassiné en automobile ?» « Parce que, répondit Jacques de sa voix la plus calme, j'ai été extraordinairement ému à la pensée que cette folle disait cela pour moi. Elle savait que j'avais conduit mon frère à Paris en auto le matin de sa disparition, et dans sa folie, elle était bien capable de me soupçonner. Alors vous avez dû être heureux d'entendre par la bouche du docteur qu'elle visait par ses propos son mari. Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? J'ai été surpris dans le moment par un pareil propos. Mais n'est-ce pas, une folle est une folle. Et si j'étais à la place de Saint-Firmin, je l'aurais fait enfermer depuis longtemps. S'il y prend garde, elle finira par le faire guillotiner. Allez, au revoir, Fanny. Goodbye, dear. Aussitôt qu'il se fut éloigné, Fanny sonna sa femme de chambre et commanda l'auto. Je serai de retour de bonne heure, dit-elle à Catherine. Je vais à Paris, à un essayage rue de la Paix. Vous direz tout cela à monsieur s'il s'inquiétait de mon absence. Sitôt qu'elle fut à Paris, Madame Jacques Mondin de la Bossière se fit conduire en effet chez son couturier, mais contrairement à ses habitudes, elle n'y resta qu'un instant. De là, elle se rendit au magasin du Manchon Héron, où elle n'allait presque jamais, au coin de la place du Louvre et de la rue de Rivoli. L'installation en était tout à fait luxueuse et surtout si éblouissante le soir. Un vrai palais de feu. Quelquefois, quand Jacques et sa femme se trouvaient tous deux à Paris dans la journée, Fanny allait retrouver là son mari, et ainsi avait-elle eu l'occasion de faire connaissance avec quelques employés supérieurs. Cet après-midi-là, elle tomba sur le chef de la comptabilité, qui était un des plus anciens de la maison. « Monsieur Gordas, lui dit-elle, j'ai à vous demander un service. »« À votre entière disposition, madame. On doit vous apporter ce soir de la rue de la Paix un paquet pour moi. Voulez-vous veiller à ce que l'un des camions automobiles, avant de retourner à Héron, l'emporte ?»« Oh, mais comment donc, madame ?»« Et qu'on le soigne, ce paquet, c'est fragile, vous savez. » Oh, comptez sur moi. Et comme si elle posait la question la plus banale avant de se retirer. Ça va toujours, les manchons errants? Oh, madame, comment pouvez-vous demander cela? Et vous, vous êtes content, vous n'êtes pas trop fatigué? Oh, madame, ce n'est pas l'ouvrage qui manque, on n'arrête pas depuis le matin, répondit l'employé un peu surpris. Ah, mais à quelle heure arrivez-vous donc le matin? À 9 heures? 9 heures, mais c'est une heure raisonnable, cela. Comment, les magasins n'ouvrent pas avant 9 heures? Non, jamais, madame. Jamais, mais enfin, mon mari, par exemple, voudrait entrer dans le magasin avant 9 heures. Ah, il ne le pourrait pas, madame, non, il ne le pourrait pas. Les devantures de fer ne sont levées qu'à 9 heures précises, et il n'y a personne pour les lever avant. Mais si votre mari, madame... Non, non, monsieur Gordas, rassurez-vous, on ne vous fera pas lever plus tôt. Notre conversation n'a aucune importance. C'est moi qui croyais que vous ouvriez plus tôt, voilà tout. Au revoir, monsieur Gordas, et pensez à ma petite commission, n'est-ce pas? Oh, madame. Chapitre 11. Les sombres réflexions de Fanny. Elle se sauva. Elle aurait bien voulu poser d'autres questions. Une autre, par exemple, mais elle sentait bien aussi qu'il ne fallait pas la poser. D'abord, elle regretterait déjà ce qu'elle avait fait, se jugeait imprudente. Son cœur battait dans sa poitrine à grands coups sourds. Elle manquait d'air. Elle baissa les deux glaces de la limousine qui la ramenait à toute allure à la roseraie. Il lui semblait que Gordas était quelque peu étonné de ses questions. Elle se reprochait de n'avoir pas été assez naturelle. Cependant, quoi de plus naturel que de venir au magasin pour lui recommander ce paquet, et quoi de plus banal que cette remarque indifférente « Comment, les magasins n'ouvrent pas avant 9 heures ?» Vraiment, non, elle n'avait pas trop insisté. Là où elle aurait été impardonnable, évidemment, c'eût été si elle avait demandé « Pardon, monsieur Gordas, vous ne vous rappelez pas si... Il y a 5 ans, le matin même du départ de M. André, mon mari est venu prendre ici dans son auto un panier de manchons qu'une grande maison de Paris avait refusé à cause d'un défaut de confection. D'autant plus impardonnable eût été Madame de la Bossière, qu'elle n'ignore plus maintenant l'heure d'ouverture des magasins et qu'elle doit se souvenir que ce matin-là, à 9 heures, Jacques était déjà de retour à Héron avec son auto. Avec son auto et le panier de manchons. Héron, ou avec la malle. Ouf, le flacon de sel, un peu d'énergie, chère belle madame, un peu d'énergie. Et pourquoi, ce jour-là, Jacques lui a-t-il menti? Car elle vient d'apprendre ce qu'il lui a menti, elle n'en doute plus, bien qu'elle ne l'ait jamais positivement soupçonné de mensonge à son égard jusqu'à hier, jusqu'à cette minute précise où Jacques a laissé tomber son verre, cependant que Madame Saint-Firmin prononçait ces mots André a été assassiné en automobile. Encore un peu de sels anglais sous les narines pincées, si pâles de la belle Fanny aux cheveux rouges. Chose bizarre, ce bris de verre sur le parquet qui avait été réveillé en sa mémoire au bout de 5 ans lui avait rappelé le bris singulier d'une soucoupe 5 ans auparavant. C'était au dernier repas qu'ils avaient fait à Héron après le départ d'André. Elle était alors souvenue qu'elle avait remarqué le matin, au retour de l'auto conduite par Jacques, le renflement de la bâche dont au départ on avait recouvert la malle d'André à cause de la pluie fine qui tombait, et elle avait simplement demandé à Jacques « Mais dites donc, est-ce qu'André n'aurait pas emporté sa malle ?» Et c'est là-dessus que Jacques, qui finissait debout sa tasse de café, avait laissé tomber la soucoupe. « Pourquoi me dis-tu ça ?» avait-il fait hostile en ramassant les morceaux de la soucoupe. Et elle entendait encore la voix dont elle avait attribué la sonorité rauque et inattendue à la position anormale de Jacques penché sur le parquet. Et quand elle avait dit ça, déjà, il s'était relevé et son calme reconquis, il disait « Oh, ce que tu as vu sous la bâche, c'était un panier de manchons. Oui, je suis revenu avec un panier de manchons que j'ai pris en passant au rue de Rivoli. Oh, ce sont des manchons refusés pour défaut de fabrication et que j'avais hâte d'examiner moi-même. » C'était si simple et si normal qu'elle n'avait pas insisté, bien qu'elle eût juré, oh ma foi oui, qu'elle eût juré qu'elle avait bien vu la malle. C'était absolument la forme, absolument, et même il lui avait semblé apercevoir, sous un pan de la bâche soulevé, le coin de cette malle au clou de cuivre. Mais après ce que venait de lui dire son Jacques, comment eût-elle douté de son erreur? Et maintenant, voilà que maintenant, elle était sûre que Jacques lui avait menti. André a été assassiné en automobile. Oh, la phrase flamboyante, lettres de feu, à la lueur desquelles elle apercevait du même coup son mari, penché sur les morceaux de la soucoupe qu'il vient de briser sur ceux du verre, qui vient de lui échapper à 5 ans de distance. Car Jacques n'est pas un maladroit. Il n'a cassé en 5 ans que cette soucoupe et que ce verre. En automobile. Il l'aurait tué en automobile. Est-ce qu'elle pensait vraiment cela? Est-ce qu'elle pouvait enfin le penser? L'enquête n'avait-elle pas démontré que l'on avait vu les deux frères sur le quai de la gare d'Orsay et Jacques remonter seul et repartir seul dans son auto? Elle avait si bien pensé cela malgré tout que pour n'y plus penser, elle était venue chercher à Paris la preuve que Jacques avait bien ce matin-là rapporté le panier de manchons dont il lui avait parlé. Et voilà qu'elle se rapportait d'autres preuves que celles qui lui avaient menti, et que sans doute, c'était bien la malle qui avait traîné derrière lui à Héron. Du reste, l'enquête n'avait pas trouvé trace de la malle, mais n'en avait tiré aucune conclusion, car au bout de 3 mois, les employés ne pouvaient donner aucune indication précise sur les numéros de bulletins attribués à tel ou tel voyageur. Mais pourquoi avait-il rapporté la malle et qu'en avait-il fait? Voyons. Elle essayait de se calmer pour pouvoir mieux réfléchir, rappeler ses idées et ses souvenirs. Quand il était revenu, le chauffeur n'était pas là. Le garage était vide. Jacques avait tout fait lui-même. Il était monté embrasser sa femme, s'était montré extrêmement tendre, presque exalté, ricanant un peu cyniquement de la douleur de cette séparation fraternelle qu'il avait creusée. Un bon déjeuner, une bonne bouteille. Comme il avait dit, une bonne bouteille. Elle en avait été elle-même étonnée, car Jacques n'attachait pas un prix exceptionnel aux bonnes bouteilles. Mais il avait déjà pris la clé de la cave et était descendu lui-même dans la cave dont l'escalier ouvre dans le garage.